Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30 temps universel du mardi 11 décembre 2018. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Campagne électorale en République démocratique du Congo, le candidat Martin Fayulu affirme qu'il a été empêché de tenir meeting à Lubumbashi. La ministre française de la Défense en visite en Centrafrique sur fond de rivalité entre Paris et Moscou. Au Sénégal, la Cour suprême examine le 20 décembre le recours de l'opposant et ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, toujours en prison. La première ministre britannique se rend ce mardi à Bruxelles pour rencontrer les leaders européens après le report du vote sur le Brexit au Parlement britannique. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous en République démocratique du Congo. L'opposant Martin Fayulu a affirmé qu'il avait été empêché de tenir ce mardi une réunion électorale à Lubumbashi à 12 jours des élections prévues le 23 décembre. Le point avec Lionel Gaïma.
Martin Fayulu a accusé sur Twitter la police d'avoir tiré des balles réelles pour disperser des centaines de personnes avant son arrivée à Lubumbashi. Ses partisans ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène et par des jets d'eau près de l'aéroport de Lubumbashi. Aucun bilan n'est disponible du côté de la police. Un des principaux soutiens de Martin Fayulu est l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, actuellement en exil. Lubumbashi est aussi le fief du président sortant Joseph Kabila. Le candidat de la majorité Emmanuel Ramazani Shadari a commencé sa campagne le 26 novembre. Dimanche, Martin Fayulu a affirmé qu'il n'avait pas pu se rendre à Kindu en raison d'affrontements entre ses partisans et des personnes se réclamant de la majorité. Kindu est le chef-lieu du Maniema, d'où est originaire le candidat de la coalition au pouvoir. Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun, est aujourd'hui à Isiro, dans le nord-est du pays, alors que Félix Tshisekedi, l'autre poids lourd de l'opposition, bat campagne à Kisangani.
Lionel Gaïma, toujours en République démocratique du Congo, 10 civils ont été tués la nuit dernière dans la région de Beni, dans une attaque attribuée au groupe armé d'origine ougandaise ADF. Les auteurs de la tuerie ont fait incursion hier à Oicha, tard dans la nuit. Ils ont pillé et emporté des animaux de la basse-cour, a déclaré Donna Kibwana, administrateur de Beni. Outre les morts, deux autres personnes sont toujours portées disparues, tandis que les affrontements se poursuivent entre ADF et l'armée congolaise. Au Sénégal, la justice va examiner le 20 décembre le pourvoi en cassation introduit par Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, condamné à 5 ans de prison pour escroquerie, l'opposant toujours en prison et aussi candidat à la présidentielle du 24 février. Le point avec Idriss Fall.
Selon son avocat, maître Mohamed Seydou Diagne, l'audience de la Cour suprême est fixée au 20 décembre. Si la plus haute juridiction confirme la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Dakar, Khalifa Sall ne pourra pas se présenter à la présidentielle de février. D'ailleurs, le dépôt des candidatures pour la présidentielle du 24 février a débuté ce mardi et va durer jusqu'au 26 décembre. Monsieur Sall, en détention depuis mars 2017, a déposé mardi la caution de 30 millions de francs en attendant la décision crucial de la Cour suprême. Élu maire de Dakar en 2009 et réélu en 2014, Khalifa Sall affirme que les poursuites à son encontre sont de nature politique, ce que démentent les responsables de la majorité. Il a été élu député en juillet 2017 alors qu'il était en détention provisoire à la prison de Rebus, au lendemain de sa condamnation en appel le 30 août à 5 ans de prison pour escroquerie sur les deniers publics. Le président Macky Sall l'avait révoqué de ses fonctions de maire où il a été remplacé fin septembre par Soham El Ouardini.
La France a remis 1 400 fusils d'assaut aux forces armées centrafricaines, réaffirmant face à l'influence croissante de la Russie son soutien à la Centrafrique. La ministre française des armées a bouclé ce mardi une courte visite de 48 heures à Bangui. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La ministre française des armées, Florence Parly, a remis ses fusils, des Kalachnikovs de type AK-47 et des armes légères lors d'une cérémonie à Bangui. Ce stock de Kalachnikov, cédé gratuitement, a été saisi en 2016 près du Yémen. La France a obtenu une exemption à l'embargo de l'ONU sur les livraisons d'armes à la Centrafrique. D'après Mme Parly, son pays est favorable à la levée de l'embargo sous certaines conditions.
Donc ce qui est important, c'est que ces armes, dès lors qu'elles seront livrées aux forces armées centrafricaines, puissent être identifiées, qu'elles puissent être stockées et qu'elles puissent être tracées.
En janvier, la Russie a livré 1700 Kalachnikov au FACA. Madame Parly souhaite que toute aide à Bangui se fasse dans le respect des initiatives internationales de paix dans ce pays.
Il est important que cette contribution puisse s'inscrire dans l'initiative africaine de paix qui est soutenue par l'Union africaine.
Son homologue centrafricaine, Marie-Noëlle Koyara, a rappelé que les 1600 km de frontières doivent être sécurisés alors que l'armée peu équipée peine à prendre pied dans un pays toujours en proie à des violences intercommunautaires.
Au Gabon, des grèves en cours dans divers secteurs sont assez peu suivies ce mardi dans les administrations, les douanes, les transports ou encore l'enseignement à Libreville. Mais les syndicats évaluent la mobilisation à plus de 60% sur tout le territoire gabonais. Hier, la Confédération syndicale dynamique unitaire a lancé une grève générale nationale de 3 jours. Elle proteste contre les mesures d'austérité mises en place en juin par le gouvernement et s'insurge de l'absence d'interlocuteurs, en l'absence du président Ali Bongo Ondimba. En Somalie, une motion de censure déposée dimanche contre le président Mohamed Abdoulaye Mohamed a été abandonnée ce mardi, faute de soutien. Cette motion avait été déposée par 92 parlementaires qui accusaient le président d'avoir violé la constitution en s'engageant dans un protocole d'accord secret avec des pays étrangers, en l'occurrence l'Éthiopie et l'Érythrée. Ce mardi donc, le greffier du Parlement a indiqué dans un communiqué avoir reçu des déclarations écrites de la part de 14 députés qui affirment que leurs noms ont été utilisés à tort dans la liste des signataires. Le sort du chef de l'ONUSIDA, le Malien Michel Sidibé, est en jeu alors que le comité de direction de l'agence se réunit ce mardi à Genève. C'est au lendemain de la publication d'un rapport accablant sur sa gestion d'une plainte interne pour agression sexuelle. L'ONUSIDA, créé en 1994 par les Nations Unies pour coordonner les programmes de lutte contre le sida, est plongé dans la pire crise de son histoire depuis le dépôt de cette plainte à l'encontre d'un ancien chef adjoint de l'agence. Afin de répondre aux accusations de mauvaise gestion de cette affaire, M. Sidibé avait appelé en février à la mise en place d'un groupe d'experts indépendants sur la prévention et la riposte au harcèlement sexuel au sein du secrétariat de l'ONUSIDA.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Theresa May, la première ministre britannique, tente d'obtenir de ses partenaires européens des assurances sur le Brexit et notamment sur la solution pour l'Irlande. Les pays européens s'opposent à toute idée de renégocier l'accord pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. John Lindon fait le point.
Il n'est pas envisageable de renégocier l'accord des divorces, répète depuis hier le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Theresa May a prévu de les rencontrer séparément à Bruxelles pour tenter de leur arracher de nouvelles concessions. Auparavant, elle s'est rendue à La Haye et Berlin. Elle veut des assurances juridiques supplémentaires qui soient contraignantes afin que le Royaume-Uni ne soit pas pris au piège dans le filet de sécurité irlandais, a expliqué mardi le secrétaire d'État britannique pour le Brexit, Martin Callanan. La question est au cœur des préoccupations de nombreux députés à la Chambre des communes. Lundi, quasiment assuré d'essuyer un cuisant échec devant les députés britanniques, Theresa May a préféré reporter, sans donner de nouveau calendrier, le vote qui était prévu ce mardi au Parlement sur l'accord pour un divorce à l'amiable avec Bruxelles. Face à ces difficultés survenues à la dernière heure, Donald Tusk a convoqué jeudi un autre sommet européen à Bruxelles.
La Turquie est en discussion avec l'ONU pour une éventuelle enquête internationale sur le meurtre à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. La Turquie avait pourtant affirmé dans un premier temps ne pas souhaiter d'enquête internationale, privilégiant une coopération directe avec les autorités saoudiennes. Et justement, le journaliste Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, a été désigné personnalité de l'année par le magazine Time, une distinction partagée avec plusieurs autres journalistes. Outre Jamal Khashoggi, l'hebdomadaire a mis à l'honneur la journaliste philippine Maria Ressa et deux reporters birmans de l'agence Reuters. Pour le journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Voilà, et la Minute Éco à présent, et c'est Bagassi Koura qui nous la présente.
Oui, la production industrielle d'or en Côte d'Ivoire est passée de 7 tonnes en 2009 à 25 395 tonnes à fin 2017, soit une hausse de 262%. C'est ce qu'a révélé lundi à Abidjan le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, cité par l'agence APA. Monsieur Duncan s'exprimait dans un discours d'ouverture de la deuxième édition du Forum et Exposition de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sur les mines et le pétrole. Quant à la production de manganèse, elle a été de 510 000 tonnes à fin 2017 contre 207 000 tonnes en 2016, soit une hausse de 146%, a-t-il ajouté. Satisfait de l'évolution du cadre macroéconomique, le Fonds monétaire international a autorisé hier, lors de son conseil d'administration, le décaissement d'une quatrième tranche de 34,9 millions de dollars en faveur du Togo. La Banque africaine de développement et Entrepreneurium ont noué un partenariat dans le cadre d'AFAWA, initiative pour favoriser l'accès des femmes au financement en Afrique, pour soutenir 1000 femmes entrepreneurs dans 5 pays africains. Ces deux organisations se sont associées à la Confédération patronale du Gabon pour la mise en œuvre du programme au Gabon, où 200 participantes seront sélectionnées sur dossier de candidature avec le concours de la Confédération patronale du Gabon.
Présent la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Le temps monte à J-1 de l'élection à la présidence de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football.
Soutien du candidat Seydou Mbombong Djoya, Samuel Eto'o est accusé d'avoir tenté de s'immiscer dans la campagne en essayant de déstabiliser les concurrents de son favori, dont l'ancien gardien de but Joseph-Antoine Bell. Accusé d'avoir fait miroiter un poste de directeur technique national à Bell pour qu'il renonce à sa candidature, Eto'o s'est défendu en publiant ses conversations privées avec l'ancien Lion indomptable sur les réseaux sociaux. L'attaquant du Qatar SC entendait ainsi démontrer que c'est Bell qui est venu vers lui pour négocier ce poste. Soutien de Bell, Roger Mila est alors sorti du bois pour recadrer Eto'o qui a vidé son sac à travers un long post publié sur son compte Facebook. L'ancien Barcelonais estime avoir été lâché par Bell et Mila lorsqu'il a essayé de redonner le pouvoir au footballeur en 2014.
En Europe, dénouement attendu ce soir dans le groupe C en Ligue des Champions.
Oui, trois clubs peuvent décrocher les deux tickets pour les huitièmes de finale dans le groupe dit de la mort. Naples du Sénégalais Kalidou Koulibaly, le PSG du Camerounais Maxime Choupo-Moting et Liverpool de Sadio Mané et de Mohamed Salah. Paris sera qualifié en 4 victoires en Serbie. Si le PSG fait un match nul et si Liverpool bat Naples, les Reds seraient alors en tête de ce mini-championnat 3 où le résultat contre l'Étoile Rouge deviendrait anecdotique pour le PSG. Dans le groupe B, il ne reste qu'un billet à arracher entre Tottenham et l'Inter Milan, derrière l'intouchable FC Barcelone.
On connaît les demi-finalistes de la CAN Beach Soccer 2018.
Et oui, deuxième du groupe A, les Lions de l'Atlas feront face aux Lions de la Teranga, champion d'Afrique en titre. Avec 3 victoires en autant de matchs de groupe, l'Égypte qui abrite le tournoi défiera le Nigeria. Les rencontres des demi-finales se jouent jeudi à Sharm el-Sheikh en Égypte donc. La finale est prévue le 14 décembre. Les finalistes se qualifieront pour la Coupe du Monde de cette compétition, Paraguay 2019.
La belle histoire se termine déjà pour Yaya Touré.
Oui, alors qu'il avait privilégié le sportif à l'argent en revenant au sein de l'Olympiakos, l'international ivoirien vient d'arrêter son aventure avec le club grec. L'Olympiakos a annoncé la résiliation du contrat de Yaya Touré d'un commun accord. Âgé de 35 ans, le vétéran ivoirien n'aura disputé que 5 rencontres sous les couleurs d'un club qu'il avait déjà connu lors de la saison 2005-2006.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie et on passe au dossier du jour. La tension monte en République démocratique du Congo à 10 jours de la clôture de la campagne électorale. Martin Fayulu, le candidat de la coalition Lamuka, entendez, réveille-toi, dénonce la perturbation à coups de balles et de gaz lacrymogènes et pour la deuxième fois de son meeting à Lubumbashi après l'étape de Kindu où son avion avait été empêché d'atterrir. La société civile condamne cette situation et accuse le gouvernement d'instrumentaliser les forces de sécurité pour perturber les activités de l'opposition. C'est un reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le candidat Martin Fayulu a vu son cortège dispersé par les forces de l'ordre à son arrivée à Lubumbashi. Son meeting n'ayant plus eu lieu ce mardi comme prévu, le candidat de la coalition Lamuka dénonce cette situation et en appelle à l'arbitrage de la communauté internationale.
Lancer des gaz lacrymogènes, de l'eau chaude, aux paisibles citoyens pendant la période de la campagne. Et c'est pour cela que nous disons à tout le monde entier, et d'abord au Conseil de sécurité, parce que les membres du Conseil de sécurité sont venus à Kinshasa. Ils ont vu et maintenant ils comprennent que Kabila ne veut pas organiser des élections. J'interpelle tous ceux qui nous disent qu'il faut mettre un bémol sur la machine à voter. Vous avez compris? Et là, aujourd'hui, vous avez en live, vous avez la situation grandeur, nature. On nous a empêchés d'aller à Kindu. Maintenant, nous sommes ici. Baba Kiyungu Okatanga a organisé un accueil ultra, je ne sais pas comment le qualifier. Ils ont été dépassés. Alors, la seule solution pour eux, c'est de nous arrêter pour que nous ne puissions pas continuer.
De son côté, le candidat du Front commun pour le Congo, Ramazani Shadari, qui a tenu un meeting ce mardi à Isiro dans la province du Bazuele, promet de faire le tour du Congo pour vendre son programme de campagne. Le candidat de la coalition au pouvoir appelle par ailleurs ses partisans au calme et à la tolérance après ce qui s'est passé à Kindu et à Lubumbashi.
Je ferai tout le Congo, du moins les chefs-lieux de province. Il faut que les gens soient tolérants. Il faut éviter les actes de vandalisme.
De son côté, Félix Tshisekedi a tenu un meeting mardi à Kisangani avant de retrouver Beni et Butembo au Nord Kivu, puis de mettre le cap sur l'ouest et le centre du pays. À la société civile, l'ONG ACAJ, Association Congolaise pour l'accès à la justice, condamne la perturbation des activités de l'opposition et accuse le gouvernement d'empêcher à Fayulu de mener normalement sa campagne.
Effectivement, à 10 jours de la tenue de 3 scrutins, le gouvernement qui est fondamentalement constitué de membres de FCC utilise les services de sécurité, les forces de défense, ainsi que certains jeunes qui sont instrumentalisés, payés pour perturber la campagne de membres de l'opposition, principalement celle menée par le candidat Martin Fayulu. Et c'est ce que nous avons vu à Kindu, où nous avons suffisamment d'éléments qui établissent que la situation qui s'est passée à Kindu a été mûrement décidée et payée, soutenue avec les moyens de l'État par les autorités provincial. Et c'est la même situation qui vient de se passer aujourd'hui à Lubumbashi.
Les Kinois interrogés, eux, regrettent que l'opposition aille à ces élections en ordre dispersé. Ils observent par ailleurs que seuls quelques candidats sont effectivement sur le terrain depuis le début de cette campagne électorale.
C'est bien malheureux. C'est malheureux parce qu'on aurait voulu pour la démocratie qu'il y ait un candidat, un bloc opposition, un autre, le pouvoir. Dès que ça se passe là, c'est du tralala, épinglé des choses. C'est-à-dire, j'ai comme impression que l'opposition ne comprend pas ce qu'il fait. Parce que L'opposition a en face d'elle plutôt le pouvoir, avec un seul candidat. Mais l'opposition s'est fait la guerre. Autrement dit, je me dis, même enfin, à quel jeu il joue et comment ça va se terminer?
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
La situation humanitaire se dégrade de plus en plus en Centrafrique après les récentes violences dans le pays. Les ONG internationales dénoncent l'empêchement des humanitaires à apporter de l'aide aux populations affectées. De Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Les violences orchestrées par les groupes armés en novembre et début décembre 2018 dans certaines régions de la République centrafricaine ont contribué à la détérioration de la situation humanitaire. Dans les localités de Batangafo, Alindao et Ipi, on dénombre des dizaines de milliers de déplacés internes, des milliers de maisons incendiées et des milliers de personnes dans le besoin d'aide humanitaire d'urgence. Actuellement à Alindao et Ipi, les personnes affectées n'ont reçu aucune assistance, faute de couloir humanitaire du fait des activités des hommes armés. Baptiste Ankar, coordonnateur du CCO, Comité de coordination des organisations non gouvernementales internationales.
Nous, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est laisser les humanitaires travailler entièrement. Faites savoir quand effectivement vous n'êtes pas satisfait, mais respectez strictement les principes humanitaires, garantissez l'accès aux populations vulnérables et dans le besoin, quelle qu'elle soit.
Face à cette situation, l'Association des victimes et déplacés de la base Koto, l'une des préfectures durement affectées, dénonce les graves violations des droits humains. Son coordonnateur Enoch Fortuné Binguidé interpelle le gouvernement et la MINUSCA.
Vous allez comprendre que depuis 2015, les enfants qui sont nés n'ont pas d'acte de naissance. Il n'y a pas de libre circulation. Vous voyez que depuis mai 2017, plus de 500 femmes et hommes ont été violés récemment à Alindao. Beaucoup de maisons et des écoles ont été détruites.
À l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre, les organisations de défense des droits humains ont alerté les autorités sur la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire en Centrafrique. Maître Mathias Barthélémy Moruba est président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme.
La MINUSCA a un mandat sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Ce mandat robuste lui donne la possibilité de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui vont se mettre en marge de la loi. Or, ici, on a constaté qu'en présence de la MINUSCA, les populations civiles sont massacrées. La population est abandonnée. Alors, on ne comprend pas quel est finalement le rôle que joue la MINUSCA aujourd'hui en République centrafricaine. Nous sommes vraiment inquiets. On meurt. Ils ne sont pas là, on meurt.
Selon les Nations Unies, malgré la générosité des donateurs, le plan de réponse humanitaire 2018 pour la République centrafricaine d'un montant de 516,6 millions de dollars n'a été financé qu'à hauteur de 240,6 millions, a indiqué l'ONU. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Tchad, la nouvelle loi adoptée par le Parlement pour réguler la presse écrite et les médias électroniques est une épée de Damoclès qui pèse sur les journalistes. La HAMA, la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, s'appuie sur cette loi pour mettre en garde les médias qui donnent la parole aux responsables de la rébellion dans le nord du pays. C'est ce que nous dit notre correspondant sur place, André Kolmajingar.
Dans une mise au point, l'organe de régulation des médias a dit avoir constaté des propos déplacés ou des contenus copiés sur des sites à caractère subversif portant sur une possible guerre dans le nord du Tchad sans en apporter des preuves. Des informations tendant à faire l'apologie du terrorisme ou tout autre groupe qui cherche à s'attaquer à l'intégrité du territoire sont punies par l'article 90 de la dite ordonnance. Pour le vice-président de la HAMA, Khalid Ibrine, cette mise au point vise donc à éviter à la presse nationale de tomber sous le coup de cette loi.
C'est pas seulement les médias électroniques qui sont visé, mais tous les médias. Quand vous parlez d'une information, il faut la vérifier. Donc, c'est une manière de protéger les journalistes par rapport à la loi qui est très dure.
Et que dire de la réaction des journalistes qui qualifient cette ordonnance liberticide avant même son adoption? Pour Ali Dibrine, cette mesure vise plutôt à assainir le climat médiatique au Tchad. Oumar Yahya Hissène est le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il explique qu'il n'est pas question de donner la parole aux rebelles.
Dès lors qu'on est illégal, on ne peut pas être une source fiable. S'il y a une opposition qui a son autorisation,
de fonctionner. C'est ça la source fiable. Mais quand vous cherchez des hors la loi pour les opposer à un gouvernement, à ce niveau, il y a quelque chose qui cloche. Quelqu'un qui est civil, qui prend une arme et qui s'oppose contre le gouvernement, pour nous, c'est un hors la loi et il faut le traiter comme tel.
Pour le directeur de publication du journal Le Pays, Magistrat Nako, le gouvernement et la AMA ont tiré à côté.
Dans un contexte comme le nôtre, qui est aussi compliqué et difficile, la AMA aurait pu gagner, par exemple, à exhorter le gouvernement, qui dit depuis le début que rien ne se passe à Misky, à organiser, par exemple, un voyage de presse pour que le journaliste dise, je suis allé à Misky, j'ai vu et rien ne se passe. Mais passer son temps à menacer et à mettre en garde une profession de journaliste, ce n'est pas une bonne option.
Le vice-président de l'ODEMET, Observatoire de la déontologie et de l'éthique des médias au Tchad, un tribunal de pairs des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, Célestin Topona, estime que l'exécutif doit s'en prendre à lui-même puisqu'il n'a pas assez communiqué sur la situation dans le nord du Tchad.
La situation sécuritaire du pays interpelle tous les Tchadiens. Et les journalistes sont des acteurs essentiels pour véhiculer les informations concernant la situation globale du pays. Mais l'ODEMET a constaté qu'il n'y a pas une communication institutionnelle sur cette question-là. Moi, je pense que les autorités, en voulant appliquer les textes, puissent donner la vraie information. Parce que tout le monde est allergique à la guerre.
Un autre projet de loi sur la régulation de la presse audiovisuelle est en ce moment sur la table de l'Assemblée nationale. Un projet qui en ajoute à l'inquiétude dans le milieu professionnel des journalistes. André Kodumadingar Ndiamena, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le président français Emmanuel Macron s'est exprimé hier face à la mobilisation des Gilets jaunes. Il a proposé des réformes salariales et avertissant avoir donné des instructions plus rigoureuses pour répondre aux violences lors de ces manifestations. Les Gilets jaunes continuent de bloquer les camions. Nathalie Barge a joint un membre du mouvement contestataire. Il s'appelle Wilfried Fachot.
Les Gilets jaunes attendaient beaucoup plus de la part du président. Il s'est discrédité auprès de la majorité des Français. Sur les 100 euros supplémentaires, juste l'accélération de quelque chose qui était prévu sur 4 ou 5 années à venir. Il n'y a pas de geste particulier à ce niveau-là. C'est un écran de fumée. Comment l'État va pouvoir faire pour financer ces 100 euros sans que ça passe par les poches des employeurs? Il va bien falloir qu'ils prennent l'argent d'un autre côté.
Alors quelles sont les principales revendications des Gilets jaunes?
Le problème, c'est que les Gilets jaunes, ils sont nombreux et ils portent chacun un peu leurs revendications. Mais en global, il y avait une augmentation significative du SMIC au minimum de 200 euros, mais que ce soit pas un effet d'annonce et qu'on comprime pas le temps pour faire quelque chose qui était prévu finalement, c'est une des principales revendications. Et il y a surtout un signe fort qui n'a pas été donné par le président hier, c'est de rétablir l'impôt sur la fortune.
Il en a parlé quand même.
Il l'a brossé, il l'a mis de côté et puis on n'en a plus entendu parler. Un des signaux très forts que les Gilets jaunes auraient entendu hier, c'était le rétablissement de l'impôt sur la fortune. C'est moins 16% de pouvoir d'achat sur les 5 dernières années. Toutes ces charges qui augmentent, toutes ces taxes qui augmentent, le prix du gasoil, le prix du gaz, toutes ces taxes qui viennent s'ajouter les unes aux autres, à la sortie, sur les 5 dernières années, c'est 16% de pouvoir d'achat en moins pour un Français qui travaille au SMIC. Je pense que réellement, il faut qu'il travaille sur le prix du carburant. Il faut travailler sur la transition énergétique pour que si effectivement les produits pétroliers, le prix des produits pétroliers doit s'enflammer parce qu'il faut penser à l'avenir des générations futures. C'est pas une prime mobilité comme on nous l'a proposé à 4000 euros pour aller acheter une voiture qui en coûte 25 000 minimum. Ça va pas faire avancer le bouchon. Les gens qui travaillent au SMIC n'ont pas 25 000 euros à mettre sur une voiture électrique. C'est de l'esbroufe.
À ce propos, qu'auriez-vous à dire sur les violences dans ces manifestations?
C'est déplorable, mais quand on pousse la population à bout, ben, il faut s'attendre à ce qu'il y ait ce genre d'incident. Hein. L'acte 5 est en préparation. Déjà sur le Puy-en-Velay, il y a des blocages. Jusqu'à maintenant, les poids lourds étaient ralentis. Là, les copains gilets jaunes parlent de blocage. Ils ont passé leur journée aujourd'hui à bloquer les camions à l'entrée des zones.
Wilfried Fachot du mouvement des Gilets jaunes, joint par Nathalie Barge. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma, à la console Bill Andrade, à la présentation Abdourahmandia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.